L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voilà pour une nouvelle étape dans l'évangile pour le couple. Alors Maud, aujourd'hui nous allons... On va aller dans le monde? On va sortir du monde? Non, en fait, aujourd'hui c'est le thème... Nous sommes dans le monde et non pas du monde. Suite à la parole, aux paroles si belles, si magnifiques, si profondes de Jésus à ses apôtres. Et donc on va essayer d'appliquer et de relire ces paroles de Jésus aux apôtres en les appliquant à notre vie en tant que couple et en tant que laïque. Et c'est vrai que le Concile Vatican II a beaucoup approfondi cette question du laïcat et qu'on va essayer justement de relire ensemble et de l'appliquer à la vie conjugale. Maud.
Je lis le texte donc de Saint Jean au chapitre 17. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous. Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.
Voilà, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 17, c'est vraiment, on vous invite à relire ces versets absolument magnifiques sur justement ce paradoxe, on pourrait dire le paradoxe de la vie chrétienne, et donc aussi le paradoxe de la vie conjugale chrétienne. Parce que à l'invitation de Jésus à la Samaritaine, nous nous abreuvons, nous enfin, à la source qui étanche toute soif. C'est parce que nous avons rencontré le Christ que nous avons vraiment goûté l'eau qui enfin nous abreuve, qui nous permet de ne plus avoir soif. Donc forcément, nous faisons l'expérience que le monde qui ne connaît pas Jésus ne peut pas faire. Donc on ne parle pas la même chose. Comment à des moments, bien sûr je partage l'humanité avec les non-croyants, bien entendu, mais à des moments, effectivement, ils ne peuvent pas comprendre. Si nous avons goûté l'eau qui vraiment nous abreuve, alors que les autres... goûte une eau qui n'abreuve pas, dans laquelle il faut constamment repartir à la recherche de l'eau parce qu'on n'est pas abreuvé en profondeur. Alors effectivement, il y a une profonde différence.
Dans ce texte qui est absolument, qui est très très riche, on pourrait passer des heures à le commenter, je dirais qu'il y a déjà des indications. Le couple est particulièrement appelé à être dans le monde et nous, notre tâche de couple laïque chrétien, c'est d'être dans le monde avec les autres, de partager la réalité de tous nos frères et sœurs en humanité, quels qu'ils soient. Et ça, c'est notre mission de laïque et à l'intérieur de ce monde, le Christ nous appelle à vivre quelque chose effectivement de différent, Alex, comme tu viens de dire. Et c'est au nom de Jésus que nous allons le vivre. C'est parce que Jésus est notre Sauveur que nous allons le vivre. C'est pour ça qu'il nous dit « Garde-les dans ton nom que tu m'as donné ». C'est vraiment au nom de Dieu que nous sommes envoyés à être avec nos frères, partageant leurs conditions et à la fois pas du monde, c'est-à-dire que nous sommes différents parce que nous savons que ce monde passe et que le monde vers lequel nous allons est celui de la joie complète en Dieu.
Mais Saint Paul approfondit un peu ce paradoxe. Il dit de nous, nous sommes nés dans le monde et nous sommes appelés de par les païens. Donc nous sommes bien, je dirais bien sûr, issus de ce monde. Et nous sommes appelés de par les païens, mais nous sommes appelés à ce moment-là à, quelque part, à la fois à quitter du monde, ils ne sont plus du monde, et à la fois ils sont appelés à vivre dans le monde, et leur mission est à vivre dans le monde. Et donc, c'est vraiment cette, entre guillemets, cette double appartenance, ce paradoxe que nous avons à vivre. Et en tant que chrétien, il faut savoir reconnaître que parce que nous avons rencontré le Christ, parce qu'il nous a transformés, bah, déjà on n'appartient plus à ce monde. Et à la fois, on y est appelé complètement, d'autant plus parce que nous sommes couple, parce que nous sommes parents d'enfants. Et donc forcément, nous sommes complètement incarnés au cœur du monde. Un moine, à la rigueur, enfin, on peut tout à fait comprendre, il se retire du monde, etc. Un religieux aussi, un prêtre également, même s'il a un ministère et un apostolat. Quelque part, il a déjà quitté le monde. Mais c'est aussi le cas, d'une certaine manière, pour des parents chrétiens. Et il ne s'agit surtout pas d'en faire des sous-moines. Hein. Il faut qu'ils soient complètement engagés dans le monde, dans la patte humaine, dans le travail, dans la vie sociale, culturelle, associative, spirituelle, ecclésiale, etc., etc. Mais déjà, ils ne sont plus du monde. Et il faut qu'ils soient conscients de cela.
Voilà, et donc Jésus développe justement le fruit qu'on va avoir si jamais on vit au nom de Jésus dans le monde, tout en étant détaché. Le fruit que nous allons cueillir en premier, c'est la joie, puisqu'il dit pour qu'ils aient la joie et que leur joie soit complète. Donc le Christ nous invite à une plénitude de joie. Mais à cause de cette vie avec le Christ, il nous prévient bien qu'à cause de la parole de Dieu, nous serons haïs du monde, c'est-à-dire que nous serons aussi signes de contradiction. Donc il y a aussi une difficulté pour le chrétien qui est d'accueillir la contradiction qu'il est pour le monde, parce que justement, nous sommes dans le monde, nous vivons entre guillemets comme tout le monde, et à la fois nous sommes différents parce que nous savons, nous, où est la vraie source. Et cette contradiction-là, elle fait partie, si je puis dire, de la condition du chrétien engagé dans le monde.
C'est vrai que c'est un très grand bonheur que cet appel, et Saint Paul insiste que nous avons une vocation céleste, que nous partageons les uns avec les autres, et que nous sommes appelés à le partager avec un très grand nombre, dès le début des Actes. Il est insisté, la parole de Dieu insiste sur le fait que cette parole doit être partagée au plus grand nombre. C'est pour cela que nous, en tant que baptisés, nous sommes des décodeurs de la révélation.
Voilà, et le Christ prie aussi pour tous ceux qui, grâce à la parole des croyants, croiront à leur tour. Donc nous sommes bien dans le monde aussi pour annoncer la bonne nouvelle et que d'autres puissent en bénéficier et puissent découvrir la grâce de cette parole et qui dont le fruit est aussi l'unité. Puisqu'il dit à ce moment-là, ils seront un et que tout soit un. Et cette unité, bien sûr, nous, on l'entend évidemment en premier pour les couples. Si nous vivons dans le monde avec le Christ, au nom du Christ, nous aurons la joie, nous aurons l'unité et nous jouirons de cette communion conjugale qui est le rêve de tout couple. Et voilà ce que le Seigneur nous propose, mais il met bien des conditions. Il dit, attention, il faut rester dans mon nom, et c'est en mon nom qu'il faut y être, il faut accepter cette contradiction avec le monde, et il faut être aussi sanctifié dans la vérité. Et là, sur ce point-là, il ne faut pas tergiverser. Le Seigneur nous appelle à être dans la vérité. Et tout mensonge et tout attrait du monde vers tout ce qui peut être le mensonge, nous devons l'écarter. Et ça, c'est vraiment une exigence qu'on doit avoir et que nous devons avoir aussi pour nos propres enfants.
C'est pour ça que, quand on reprenait l'expression que les baptisés et que les laïcs, placés au cœur du monde, plus que quiconque en tant que vocation dans l'Église, je pense aux consacrés, aux prêtres, etc., plus que quiconque, les laïcs, et donc les couples et les familles, sont complètement immergés au cœur du monde, et que nous avons notre mission, et d'être à la fois décodeurs, à la fois par la vie, mais aussi par la parole, de cette révélation chrétienne qui est libératoire et qui est un chemin de bonheur. Je veux dire, on n'est pas là pour embêter les gens, en leur annonçant le Christ. C'est tout à fait l'image des moments qu'on peut avoir, qu'on est ringardisant, qu'on est pénible, etc., etc. Mais le chemin de la vie chrétienne est libératoire, ou sinon, il n'a aucun intérêt. Et donc, nous devons être témoins de cette révélation au bonheur, au cœur du monde, pour identifier auprès des païens, ou des non-chrétiens, ou de ceux qui ont quitté l'Église, que vraiment accueillir le Christ, c'est libératoire. Il faut leur donner le décodage de nos aspirations profondes. Nous étions en réunion ce matin, avec une réunion ecclésiale, etc., sur la communication, sur le témoignage, etc., et on se rendait compte combien, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le monde et qui connaissent pas Jésus, mais qui n'ont pas besoin. Alors que nous savons de par notre foi, que l'aspiration fondamentale existentielle de tout homme, de toute femme, de tout enfant, jeune ou vieux, il attend de rencontrer le Christ. C'est son aspiration profonde, éternelle, universelle, dans toute langue, toute culture, toute l'histoire. C'est inscrit dans son cœur, parce que tout homme est à l'image de Dieu, et donc il aspire à une chose, à la révélation. C'est pas nous qui le disons, c'est saint Paul qui le dit.
Voilà, c'est pour ça que le Christ nous annonce la joie. C'est-à-dire que si nous sommes libérés par le Christ et que nous vivons selon sa parole, même dans le monde, au cœur du monde, et justement là, au cœur du monde, là où il nous appelle à être, alors c'est notre joie qui sera témoin de ce bonheur que nous vivons, et qu'à ce moment-là, nous pourrons témoigner auprès d'autres de cet extraordinaire bonheur qui est donné en vivant avec le Christ.
On se retrouve dans un instant. Voilà, nous nous retrouvons avec Maud pour essayer de commenter l'évangile du couple, notamment ce magnifique évangile de Jean au chapitre 17, où le Christ a dit à ses apôtres, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes appelés au cœur du monde. Et cette parole ne s'applique pas simplement aux consacrés, pas simplement aux prêtres, aux religieux, aux moines et moniales, mais également au couple chrétien.
Oui, d'ailleurs, l'Église, à travers le Concile Vatican II, a beaucoup développé ce rôle des laïcs, cette mission qui est confiée aux laïcs, et elle a même repris ce qu'on appelle la dignité baptismale, c'est-à-dire que lorsque nous sommes baptisés, nous recevons l'héritage du roi. Donc le roi, c'est Dieu, et nous recevons cette dignité de prêtre, de prophète et de roi. Alors Alex, je crois qu'il faut qu'on l'explique, parce que pour un couple, c'est pas complètement évident de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes prêtre, prophète et roi.
Eh ben, nous sommes rois de par la seigneurie du Christ. Quand nous avons été baptisés, nous avons revêtu le Christ, dit la liturgie et dit la foi de l'Église. Et revêtir le Christ, c'est revêtir sa seigneurie. Jésus-Christ est sauveur. Il est maître et il est seigneur. Et au travers de la seigneurie, donc derrière la seigneurie, il y a la question de l'autorité. C'est que vraiment, quand nous professons la foi, quand vraiment nous misons notre vie sur la pierre d'angle du Christ, nous l'accueillons comme seigneur. Et nous professons que le Christ va avoir autorité sur l'ensemble de notre vie. Et la première des choses, eh bien, effectivement, ça concerne la question du combat spirituel. Et qu'effectivement, je sais que le Seigneur, en me libérant du péché, va m'accompagner dans ce combat spirituel qui sera complètement gagné, bien sûr, dans l'au-delà, dans la vie éternelle, mais que ce combat, il commence à être gagné ici et maintenant. Et au travers du combat spirituel, que nous menons pas entre nous, en notre nom, parce qu'on sait bien qu'on n'en est pas capable, mais parce que le Seigneur nous en donne sa grâce. Et donc, ce combat spirituel, nous pouvons le mener, et c'est en cela, les pères de l'Église, rois par l'emprise sur nos passions.
Voilà, c'est-à-dire que nous allons apprendre à exercer une maîtrise de nos passions, pardon, de nos pulsions, de tous nos désirs, non pas pour se brimer, mais simplement pour être capable de les maîtriser. Et quand on les maîtrise, on est libre et on peut vraiment en goûter. Quelqu'un qui est esclave d'une addiction au chocolat ou je sais pas trop quoi, il n'est pas maître de ses passions et il devient, si je puis dire, déterminé dans son comportement par le désir qu'il a de trouver du chocolat à tout prix.
Nous avons évoqué lors d'une précédente émission un sujet peut-être davantage conjugal que la question du chocolat. C'était la question de la sexualité, où justement on avait à ce niveau-là, au niveau si on travaille sur la conversion de notre sexualité, alors à ce moment-là nous pouvons goûter une sexualité en crescendo. Alors que beaucoup de couples et le monde nous montre combien cette sexualité très rapidement est vide de sens et conduit à un plaisir de plus en plus stérile. Donc combien là le combat de la conversion mène à une dilatation en crescendo. Combien cette royauté est pas simplement une dissertation théologique, mais bien une réalité qui rejoint notre vie conjugale quotidienne.
Voilà, donc on apprend à acquérir cette liberté sur nos passions, sur notre désir de pouvoir, sur notre avoir, sur notre argent, sur nos biens. Tout ça, ça va nous libérer. Nous sommes maîtres de nos choix et de nos vies. Et l'Église nous le rappelle, avec le Christ, vous devez exercer cette royauté.
Donc Maud, il y a ce deuxième point qui est une deuxième dignité de par notre baptême, qui est d'être prophète.
Ah, ça c'est une très belle dignité et je pense que nous avons aussi à la découvrir. Nous sommes prophètes, ça veut dire quoi ? Le prophète c'est pas celui qui dit il va arriver ci, il va arriver ça, ça peut arriver, mais c'est pas essentiellement ça le prophétisme. Celui qui est prophète, c'est celui qui est capable de discerner dans le temps, dans ce qui se vit, les choses qui sont de la vérité, les choses qui sont du mensonge, les choses qui sont justes, les choses qui sont graves. Et il va être capable de lire ce qu'on appelle les signes des temps. Alors Jésus s'énervait beaucoup à un moment dans une parole contre les hommes qui arrivent à interpréter l'aspect du ciel, mais ne savent pas lire les signes des temps. Qu'est-ce que ça veut dire lire les signes des temps ? Lire les signes des temps, j'y arrive, c'est être capable de discerner dans un événement, dans un comportement, qu'est-ce qui se joue en profondeur ? Quel est l'enjeu de ce comportement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu disais, Alex, tu prenais l'exemple de la sexualité tout à l'heure, eh bien, quand on voit quelqu'un qui est complètement accro du porno sur son ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le signe ? Qu'est-ce que ça signifie en profondeur ? C'est pas qu'il faut l'aider à couper son ordinateur, certes, il faut faire ça, mais c'est qu'en profondeur, il faut orienter sa soif d'amour. Il faut qu'il trouve la vraie source et que nous sommes capables de lire les événements de notre société à l'aune de cette vérité du Christ.
Voilà, c'est vraiment... Comme tu le dis, Maud, nous prenons souvent, manière un peu provocatrice, c'est sûr, disons, écoutez, que les sex shops et l'ouverture des sites internet roses, au rouge, au porno, etc., c'est une des plus grandes preuves de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on voit effectivement l'inflation colossale de toutes les consultations des revues porno, etc., etc., ça prouve quoi ? Ça prouve que l'homme crève complètement d'amour. Mais comme il n'a pas rencontré la source de l'amour, eh ben il va chercher des pis-allers. Pourquoi qu'on ouvre la radio, la télé, le machin, toutes les radios périphériques de jeunes, les émissions télé, les revues, ça parle de quoi ? Ça parle de sexe, de cul et d'amour. Voilà, à 80%, le reste, allez, c'est un peu de politique à droite à gauche, mais l'essentiel des propos gênants, des discussions, etc., ça tourne directement, indirectement sur quoi ? Mais sur l'amour, sur le sexe, sur la vie conjugale, etc., etc. Pourquoi ? Parce que les gens crèvent d'amour. Parce que c'est un signe profond que les gens, ils recherchent l'amour. Ils n'arrivent pas à le trouver. Et comme ils l'ont pas rencontré dans Jésus, c'est pour ça que c'est libératoire, annoncer Jésus-Christ. Voilà, c'est identifier le signe des temps. C'est aussi reconnaître les signes des temps quand on, quand on identifie qu'effectivement, à partir des enquêtes auprès des jeunes croyants ou incroyants, quand ils disent quel est votre modèle conjugal, qu'est-ce que vous voulez vivre dans la vie, quelle est votre grande recherche, ah, moi j'aimerais aimer un homme, une femme, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais vivre toute la vie avec la même femme, quel est ce modèle? Ben, c'est le modèle conjugal tel que l'Église le proclame et le professe depuis des années. Ça prouve bien que c'est inscrit des années, depuis 2000 ans, ça prouve bien que c'est inscrit au cœur de l'âme et de l'attente des gens.
Voilà, et ce prophétisme est aussi attendu par le monde, parce que par exemple, quand on voit sur toutes les questions d'actualité à quel point le monde a besoin que l'Église donne son avis, sa position, c'est parce qu'elle discerne les enjeux existentiels qu'il y a derrière une décision. Et que quand l'Église, par exemple, porte une appréciation sur tout ce qui touche manipulation génétique et tout ça, c'est parce qu'elle sait quel est le sens profond qui est atteint par ce geste ou par cette décision. Et que c'est ce prophétisme-là dont le monde a besoin. Parce que sinon, il ne comprend pas où il va. Il ne faut pas être étonné quelque part que les non-croyants ne comprennent pas un certain nombre de positions, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette lumière du Christ, et donc pour eux, ils n'en décryptent pas le sens profond. Et c'est aux chrétiens d'apporter cette parole, parce qu'elle décrypte l'essentiel des enjeux qui sont en question dans ces problèmes-là.
De par notre dignité de prophète, nous avons à exercer ce ministère auprès de nos enfants, d'abord auprès de nos enfants et auprès de ceux aussi qui nous entourent, parce que nous sommes toujours à rechercher la nécessité de dépasser les leurs que propose ce monde. Saint Jean, qui insiste, le défenseur confondra le monde. C'est-à-dire que le monde va être confondu. Le défenseur, c'est l'Esprit Saint, va confondre ce monde dans ses leurs. Nous avons à essayer d'annoncer avec beaucoup d'amour, de tendresse, de charité, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde, parce que la vérité nous rend libres. Et quand tout le monde professe tout ce qu'il professe concernant l'érotisme, concernant la vie conjugale et familiale, c'est du mensonge. Et c'est vrai que c'est œuvre de ténèbres, et ça conduit à un malheur. Quels sont les enfants qui vont recevoir une bénédiction de vie conjugale qui vont se déliter de plus en plus? Voilà, donc nous avons véritablement à accueillir cette bénédiction de baptismale de la prophétie. Et puis Maud, troisième dignité, la dignité de prêtre. Nous sommes également en tant que conjoints des prêtres de par notre baptême et de par notre sacrement de mariage.
Dans la vie du laïc et dans la vie du couple en particulier, être prêtre, ça consiste à sanctifier le temps, l'espace et tout ce qui nous entoure. Sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire en faire une occasion de louange, une occasion de célébration de Dieu. Donc nous sanctifions le temps, par exemple, par les temps de prière. Les moines sanctifient le temps. Nous sanctifions notre travail en l'offrant à Dieu. Nous sanctifions nos courses en offrant notre temps au Seigneur. Nous sanctifions tout ce que nous faisons en l'offrant au Seigneur, en le vivant avec lui.
En tout cas, on essaye. C'est notre but.
Pour ça que nous sommes appelés à développer les liturgies familiales pour les occasions, des petites liturgies qui nous permettent de vivre et de célébrer Dieu dans chaque instant. Le papa part, on va prendre un chant, on va prier pour lui. La maman revient de la maternité, on va accueillir le nouveau bébé en célébrant ça en famille. Voilà, mettre Dieu au centre pour liturgiser, pour sanctifier notre temps et en faire une occasion d'offrande au Seigneur. Voilà, c'est une dimension qu'on connaît relativement peu, mais qui est très importante parce que nous sommes appelés à la louange. Et nous sommes nés pour louer le Seigneur et pour lui rendre grâce. Et quand nous rentrons dans cette dignité de prêtre, nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne.
Et puis peut-être, dernier aspect, il faudra encore beaucoup de temps pour développer toute cette dignité de prêtre en tant que couple, mais on va peut-être, Maud, finir en soulignant, en rappelant la dignité liturgique propre des époux, qui est leur sexualité. Jean-Paul II a parlé de la sexualité conjugale des époux comme une liturgie, une action de grâce rendue au Seigneur pour l'image de Dieu qui les habite. Voilà. C'est vraiment peut-être l'acte liturgique le plus fort, le plus symbolique, le plus spécifique des couples. Voilà, bah c'est vraiment à cette bénédiction, à cette grande dignité de roi, de prophète et de prêtre que nous vous encourageons d'accueillir dans vos vies conjugales, familiales. Que le Seigneur en toutes choses vous bénisse et vous accompagne. À la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace of love.